C'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
Les actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
Bonjour Dave Noël.
Bonjour Antoine.
Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, auteur entre autres de Montcalm, général américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et aujourd'hui, on se penche sur une autre archive. On a fait ça l'autre fois avec René Lévesque et ses émissions. Mais une autre archive qui vient de surgir sur Internet, c'est le discours du budget de Jacques Parizeau en 1979.
Oui, donc c'est ça, c'est le député Pascal Bérubé, député de Matane, qui a eu accès au centre de documentation du Parti québécois, qui de temps en temps met en ligne des archives qui normalement devraient être accessibles sur les sites de l'Assemblée nationale, mais qui ne sont toujours pas.
Ah oui.
Pour des raisons, c'est ça, ça va peut-être arriver éventuellement, mais donc pour l'instant, par cette chaîne-là, on a accès à des documents peu connu, ben en fait connu, mais que peu de gens ont écouté en détail. Et c'est ce que j'ai fait pour la chronique. Donc, j'ai écouté l'ensemble, les deux heures du discours de Jacques Parizeau du 27 mars 1979.
J'en ai écouté des grandes parties, moi aussi. C'était vraiment un discours technique, un exposé sur l'économie, beaucoup plus que les discours du budget aujourd'hui qui sont dans les annonces, là, le ministre annonce telle affaire, telle chose, mais lui, il faisait vraiment un cours d'économie, là, Jacques Parizeau.
Tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier discours qui a été télédiffusé. Parce que là, on est en mars 79. Les débats au Salon Bleu sont télédiffusés pour la première fois le 3 octobre 78. Donc, le budget précédent avait été fait avant. Et là, c'est la première fois qu'on a droit à un exercice de ce genre-là à la télévision pendant deux heures. Donc, c'est d'autant plus intéressant. C'est le troisième budget Parizeau, donc élu en 76, ministre des Finances. Et on le voit, bien sûr, avec son complet trois pièces, le doigt dans la poche de sa veste tout le long de l'exposé. À noter
comme sur sa sculpture.
Exactement, la sculpture derrière le Parlement. Et il faut noter aussi que ce n'est pas le seul qui avait le veston trois pièces, le costume trois pièces. Il y en a plusieurs autres qui l'avaient également. Donc, il ne faut pas exagérer non plus ce volet-là vestimentaire.
C'était pas unique.
C'était vraiment pas unique, non.
Et, encore aujourd'hui, il y en a qui portent des
costumes trois pièces.
Trois pièces, oui.
Ça revient tranquillement.
J'en vois à l'Assemblée nationale. À TVA, il y a Pierre-Olivier Zappa. Ouais.
Voilà, oui. Retour de mode. Donc, on peut commencer, d'ailleurs.
Ça me ferait peut-être bien.
Ben oui, tu pourrais essayer.
Oui,
je t'invite à le faire. Donc, c'est ça. Un premier extrait qu'on pourrait écouter, c'est sur la fonction publique qui a pris de l'ampleur, selon Jacques Parizeau, sous le gouvernement précédent. Et on va l'entendre parler. C'est un des rares moments de poésie du discours.
Oui, c'est très beau comme poésie.
Une foule de programmes se sont épaissis sans que l'on sache trop pourquoi, simplement parce qu'ils étaient là. Le personnel s'est accumulé dans des anses ou des baies administratives parce que le courant y était moins fort qu'ailleurs.
Des anses ou des baies administratives, Dave, c'est magnifique.
Oui, très beau. Et ce qui est magnifique aussi, c'est de voir la décoration de l'époque du Salon Bleu. Donc, il faut savoir que le Salon Bleu était vert jusqu'en 1978 et quand les caméras font leur entrée dans le salon vert, donc, on décide de repeindre le tout en bleu et on voit vraiment les premières couleurs de l'époque. On a aussi des beaux rideaux beige qui font très années 70.
Des pots de fleurs aussi.
Des pots de fleurs, oui, on se demande si elles sont vraies. Et notamment, une espèce de plante verte, je ne sais pas si tu l'as remarqué, qui est à la droite du président dans l'arche où il y avait autrefois, il y a très longtemps, une statue de Victoria, donc une grosse plante. On était vraiment à l'époque des fleurs et plantes qu'on ne voit plus maintenant. Ça fait un peu salon.
C'est peut-être une métaphore de certains élus qui sont des plantes vertes.
Exactement, oui, on peut le penser. Et ce qui est frappant aussi, c'est que la façon que c'était filmé, c'est un peu différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde la période des questions du Salon Bleu, par exemple, on voit la caméra qui zoome immédiatement sur le député qui parle et ça ne bouge presque pas. Tandis qu'à l'époque, il y avait des champs contre champs. On voyait notamment Jacques Parizeau de dos. On voyait la réaction des libéraux en face qui est en train de lire le budget. Là, il est vraiment plongé dans le document. On voit aussi Rodrigue Biron, qui est le chef de l'Union nationale, donc qui existe encore à ce moment-là, qui est vraiment dans ses derniers milles, comme on dit.
Mm-hmm.
Donc, c'est vraiment intéressant de voir.
Puis lui, comment... il va passer au Parti québécois plus tard. Là.
Juste avant le référendum de 80. On voit aussi les pages. Donc, les pages, c'est ces personnes-là qui sont chargées de distribuer des petits papiers d'apporter des verres d'eau. On les
des
voit,
pots de documents.
Des pots de documents. On les voit assis. Habituellement, en ce moment, ils sont assis le long du mur, aux côtés du président, de la présidente. Mais à l'époque, ils étaient assis dos à dos sur des chaises, le long de la table des greffiers. Donc, ils sont très présents, vraiment prêts à se lever à tout moment. La mesure phare de ce budget-là, dans le fond, c'est un congé de taxes pour les vêtements de moins de 500 $ et les chaussures de moins de 100 $. Donc, on va écouter ce passage du discours de M. Parizeau.
Par vêtements, on entend aussi tous les accessoires présentement exemptés, tels que sac à main, ceinture, etc. Par chaussures, on entend toutes les chaussures, y compris, au nom d'un impératif culturel, les patins.
Congé de taxes sur les patins.
Oui, c'est ça.
Mesure un peu démagogique.
Oui, un peu folklorique. dans le fond, c'est ça, on est à l'époque où les industries québécoises, donc, qui étaient réputées anciennement, ils souffrent beaucoup de la concurrence des marchés asiatiques et américains. Donc, c'est vraiment, on essaie de dynamiser l'industrie par cette mesure-là, qui est vraiment celle qui a été retenue le lendemain dans les journaux comme étant le point le plus important de ce budget-là. Et ce qui est intéressant dans le discours de M. Parizeau, c'est qu'il relativise certains prix de la vie quotidienne en parlant, ou certaines mesures en parlant en paquet de cigarettes par jour.
Ah oui.
Aujourd'hui, on va dire, mettons cette hausse-là. C'est ça, c'est un café par jour, il n'y a rien là. Mais à l'époque, on comptait en paquet de cigarettes. C'est assez amusant. Et donc, c'est ça ce qui
nous... C'était pas la promotion des saines habitudes de vie.
On était loin de là. Et donc, le budget de l'État à l'époque était de 14 milliards de dépenses pour des revenus de 13 milliards. Donc, c'est évidemment, avec le dollar courant, ça relativise tout ça. Mais on est vraiment dans d'autres montants.
Puis aujourd'hui, on était à quoi? 115.5 dans les budgets, pour le budget de dépenses, en tout cas?
Oui, c'est ça. La hausse est constante. En tout cas, en dollars, si on prend le total. Et c'est ça. Et un autre élément intéressant, c'est vraiment les compagnons de pupitre de M. Parizeau. On voit à sa gauche Claude Morin, qui est ministre des Affaires intergouvernementales, qui lit attentivement le budget. Et à côté de lui, il y a Claude Charron, donc le leader parlementaire. Et René Lévesque, qui lui a la tête vraiment... Il est vraiment penché. Disons que les députés autour de lui ne sont pas là en train d'essayer de sourire ou de
faire bien paraître. Il était studieux.
Très studieux. C'est vraiment un exercice à l'époque qui avait une pertinence parce qu'on était dans l'analyse du document et tout le monde a son volume sur son pupitre et le lit attentivement. Et aussi, un autre élément intéressant, c'est la lutte aux paradis fiscaux. Chaque budget, que ce soit à Québec ou à Ottawa, on a toujours l'espoir de contrer ce fléau. Et en 79, c'était déjà le cas. On va entendre M. Parizeau, qui en profite d'ailleurs pour parler de la social-démocratie péquiste.
On devrait ainsi, M. le Président, désamorcer l'espèce de révolte des biens nantis à laquelle on assiste depuis un an. La courbe d'impôt sur le revenu des particuliers au Québec va demeurer très progressive. Elle correspond aux objectifs d'un gouvernement social-démocrate et on s'étonne toujours de constater que dans certains milieux, on se surprend de ne pas y voir les objectifs d'un gouvernement de droite. Il y a moyen cependant, pour ceux qui ont des revenus élevés, d'abaisser substantiellement leurs impôts. C'est d'investir dans le Québec plutôt qu'à Nassau, en Floride ou en Alberta.
J'aime beaucoup sa manière de s'adresser aux bien nantis.
Oui, c'est ça. Oui. M. Parizeau, c'était le bourgeois de oui. gauche, un peu le mouton noir de son clan, si on veut, de sa caste d'économistes. Et c'est ça, on est vraiment à un an du référendum de 80.
Oui. On ne connaît pas encore la date, elle n'a pas encore été déterminée.
On sait très bien que ça s'en vient parce que ça a été promis dans le cadre d'un premier mandat et ce mandat-là achève. Et à la toute fin du discours, M. Parizeau évoque le référendum au Salon Bleu.
Nous avons maintenant une bonne idée de ce que nous pouvons faire avec la moitié de nos impôts et de nos taxes. Le gouvernement fédéral, par ses coupures de dépenses, nous a enlevé 200 millions de ressources. Il ne nous a pas empêchés d'atteindre l'essentiel de nos fins. Nous approchons cependant du moment où nous pourrons élaborer nos objectifs et nos projets en ayant à notre disposition la totalité de nos ressources. D'ici peu de temps, les Québécois seront appelés à décider que la moitié ne suffit pas et que c'est de toutes leurs ressources qu'ils veulent être responsables.
Donc voilà, c'est ça, on est vraiment à un an du référendum de 80, qui le oui va remporter 41% des voix, donc c'est vraiment un échec, et C'est ça, ce budget-là, c'était censé être le dernier du Québec. Ben, en fait, non, pas vraiment, parce que le référendum sur l'indépendance, en fait, en était un pour un éventuel de négocier. Donc, voilà.
Mais... ça devait donner l'envie aux Québécois de maîtriser pas la moitié de leurs ressources,
mais la totalité. Mais la totalité. Oui, exactement.
Devoir d'histoire, maintenant. Il y a un livre qui paraît, c'est un recueil. Puis toi, tu t'es occupé beaucoup du devoir d'histoire dans ce journal.
Oui, ben voilà. Donc, le devoir d'histoire, c'est en place depuis 2017. Ça a été tiré un peu du devoir de philo que tu avais fondé à l'époque au devoir.
Oui.
Le devoir d'histoire, c'est une rubrique mensuelle qui donne la parole à des auteurs qui évoquent des personnages historiques ou des événements. Ça peut être des commémorations ou tout simplement des parallèles avec le présent. Et donc, aujourd'hui même, le livre est disponible dans les librairies. C'est édité par Somme Toute. C'est un ouvrage qui comprend notamment un texte de Jonathan Livernois, donc qui est professeur à l'Université Laval, qui traite du discours du budget de Parizeau de 79 sous l'angle littéraire, parce que M. Livernois s'intéresse beaucoup à la littérature et la politique, le lien entre les deux. Et il rappelle dans son texte, qui est maintenant dans l'ouvrage, que le critique du devoir et professeur de l'Université McGill, Jean-Étier Blais, avait consacré une chronique littéraire à ce discours-là. Et il parlait du ton bonhomme et savant, pince sans rire, hautement civilisé de Parizeau. Et c'est ça, donc, c'est une analyse qu'il avait faite de ce discours-là. Et j'avoue que j'avais jamais écouté le discours au complet. Et en l'écoutant, je le trouvais peut-être un peu moins bon que ce que j'avais anticipé. Je pense que toi aussi, tu as eu de la difficulté à passer au travers.
Extrêmement technique. Oui. C'est comme un cours universitaire sur l'économie contemporaine, mais avec énormément de détails. Et puis, c'est intéressant, mais on y perd un peu notre latin.
Exact.
Surtout à quelques, 40 quelques années de distance.
Ouais. Oui, peut-être que les discours des budgets des autres ministres des Finances à l'époque, des libéraux, étaient encore plus techniques, plus arides, je ne sais pas.
Ouais.
Il faudrait les écouter. Évidemment, ça n'a pas été télédiffusé, donc on a seulement les versions papier. Et sinon, dans l'ouvrage « Le devoir d'histoire » chez Somme Toute, on a des textes de plusieurs historiens comme Éric Bédard, Laurier Claude Lacharité, Sophie Imbeau, Martin Paquette, Camille Robert Comeau. Et aussi Patrick Taillon, qui s'est intéressé à la charte de Victoria de 1971.
Mon chroniqueur constitutionnel.
Exactement. Il a co-signé ce texte-là avec Émilie Binette. Il racontait l'occasion manquée de 71 à Victoria, Robert Bourassa, qui aurait peut-être finalement l'entente qui était envisageable à ce moment-là aurait été mieux que celle qui a été conclue 10 ans plus tard lors de la nuit des longs couteaux. On a aussi un texte d'Alain Lavigne qui s'intéresse au marketing politique de la campagne de 70. Donc, c'est vraiment, il y a de tout dans cet ouvrage-là. Et on a aussi des textes sur la crise d'octobre de 70, écrit par Jean-Philippe Warren, qu'on peut écouter un extrait audio. À l'époque, on avait fait une entrevue avec lui pour ce texte-là, donc, et qu'il nous parle de la crise d'octobre en quelques mots.
Ça se situait dans un horizon global, un horizon international de violence. Les années 60, ça a été l'éveil pour la population québécoise à la violence, évidemment, qui se passait chez eux, mais aussi à la violence à l'extérieur. Ils se tournaient vers les États-Unis, ils voyaient des émeutes, ils voyaient des quartiers en feu, ils voyaient des attentats continuellement, année après année. Il y avait les Noirs qui se révoltaient, il y avait les étudiants qui se révoltaient, il y avait toutes sortes de couches de la population qui entamaient une lutte, qui entamaient un mouvement de libération qui passait pas toujours par la non-violence, mais des fois qui passait par des actions beaucoup plus musclées.
Alors, c'était Jean-Philippe Warren, qui est professeur à l'Université Concordia.
Oui.
En sociologie. Bien, merci beaucoup, Dave.
Merci, Antoine.
On se reparle la semaine prochaine.
Oui.
Pour d'autres actualités de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine La Hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.